Ils sont de moins en moins nombreux. Les Français les aiment, leur cherchent des conjoints, mais leur demandent aussi des comptes. Qui sont-ils? De quoi est fait leur quotidien? Pourquoi exercent-ils ce métier? Et d'ailleurs, est-ce vraiment un métier? Les agriculteurs nous nourrissent, façonnent nos paysages. Pour mieux les comprendre et mieux apprendre à les aimer, on va prendre le petit déjeuner avec eux et essayer de mettre nos pieds dans leurs bottes. Grandir en région parisienne, se destiner à la recherche génétique humaine, prendre une décision sur son avenir à Sydney, Aude aurait pu avoir mille destins. Mais c'est l'agriculture qu'elle a choisie. Ou bien, c'est l'agriculture qui l'a choisie, elle. Elle y est venue par la science, la biologie. Elle a aimé ce milieu grâce aux rencontres qui lui ont transmis la passion de la conduite des animaux. Aujourd'hui associée dans une exploitation du nord de l'Hérault, elle est fière de mettre en avant le pastoralisme, fondement essentiel de son élevage. Elle gère ses garrigues au travers de races d'animaux rustiques complètement adaptées à ce territoire. Lorsqu'elle décide de s'installer, tout avait du sens pour elle dans cette exploitation. Maman de deux filles, elle peut leur consacrer du temps, tout en s'assurant de répondre à son besoin d'être débordée dans son métier. Un matin ensoleillé de mai, nous avons parlé transhumance, entourage et vente directe. Allez, on essaie ses bottes ! Bonjour Aude.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux commencer par me dire qui tu es ?
Alors, je m'appelle Aude, j'ai 34 ans. Voilà, je suis maman de deux petites filles et je suis agricultrice dans le département de l'Hérault, dans une petite commune dans les Garrigues, au nord de Montpellier. Voilà, éleveuse de brebis, de vaches et viticultrice.
Et tu dirais que tu es quelle agricultrice ?
Une agricultrice heureuse. Voilà. Et pressée, souvent.
D'accord.
Un peu débordée.
Dernière question rituelle, elles sont comment tes bottes ?
Elles sont rangées.
D'accord.
Parce que je m'en sers pas du tout. On est dans un territoire de cailloux, alors les bottes dans les cailloux, c'est pas idéal.
Mais tu en as quand même.
Mais j'en ai quand même.
D'accord.
Bon, je m'en sers pour nettoyer la bétaillère. C'est tout.
On va repartir un peu du début, de ton enfance et tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où est-ce que tu as passé ton enfance ? Qu'est-ce que c'était le cadre ?
J'ai grandi à Paris. Je suis pas du tout issue du milieu agricole. Je suis la dernière d'une famille de quatre enfants. Voilà, avec une maman qui a initialement est prof de lettres, mais qui est très vite devenue mère au foyer et qui s'est occupée corps et âme de ses enfants. Et mon papa qui est enseignant-chercheur en sciences physiques plus particulièrement, et qui après a dérivé sur tout un tas d'autres choses en lien avec l'enseignement supérieur.
D'accord. Du coup, tu étais dans Paris même ?
Ou presque, juste à côté.
Ouais, ok.
Mon lieu très proche.
Ok.
Voilà, une enfance, somme toute, assez classique. Voilà, assez chanceuse, je pense, parce que on a eu la possibilité quand même d'avoir des parents qui nous emmenaient beaucoup en vacances. Je pense qu'on a eu beaucoup, beaucoup de chance par rapport à ça. Donc on a quand même pas mal voyagé en France et un petit peu à l'étranger aussi, donc c'était assez chouette. Voilà, une enfance assez normale avec mes frères et sœurs,
ouais.
Surtout avec mon frère qui est le plus proche de moi. Assez classique.
Et à ce moment-là, dans ton enfance, ton lien à la nature, l'extérieur, il est inexistant.
Il existe un petit peu parce que mes parents ont toujours eu souci de nous amener dans la nature, même en vivant à Paris. On allait souvent en forêt de Fontainebleau. On allait quand même souvent en vacances en province, dans des endroits qui, oui, voilà, ils nous poussaient un peu pour aller nous promener, même quand on n'avait pas envie. J'allais quand même souvent à la montagne aussi, et je pense que mes premiers contacts avec l'agriculture et les animaux, c'était peut-être là. On allait en vacances en Suisse l'été, et tous les étés, le 1er août, c'est la fête nationale suisse, et je voyais les troupeaux de brebis qui passaient dans le village avec leurs cloches et leurs pompons. Je crois que c'était un peu le premier contact que j'ai eu de très loin avec le secteur agricole. Mais bon, on avait un petit contact avec la nature quand même,
okay.
Voilà, mais pas du tout avec le milieu agricole.
Donc du coup, cette enfance se passe tranquillement. À l'adolescence, il se passe quoi ? Au moment des choix un peu plus de carrière, en tout cas d'orientation ?
Moi, quand j'étais au lycée, j'étais hyper branchée biologie, chimie, j'adorais la génétique. Et je m'étais mis en tête de faire de la recherche en génétique humaine sur les maladies rares, mm-hmm. les maladies orphelines. Donc la voie royale un peu pour faire ça normalement, c'est de partir sur
médecine,
les
ouais.
Alors médecine ou normal sup.
Ah oui.
Voilà, moi j'ai visé normal sup, donc mauvais choix. J'ai fait une prépa bio classique quoi, sauf que j'ai raté les concours pour rentrer à Normasup du premier coup. J'avais pas du tout envie de refaire une troisième année de prépa parce que ça me suffisait 2 ans, j'en avais un peu marre de rester cloîtrée chez moi dans mes bouquins. Et en fait, j'avais la possibilité d'aller dans les écoles d'agro, que je connaissais absolument pas, dont j'avais pas du tout entendu parler, mais en fait, quand j'ai regardé le programme, je me suis dit, bon, bah, l'agriculture, l'agronomie, je connais pas, mais au moins, ça a l'air sympa. Et comme je savais pas forcément, je m'étais un peu détournée du milieu de la recherche aussi, et comme je me suis dit que c'était quand même une bonne opportunité, qu'il fallait pas se fermer ce genre de porte. Du coup, j'avais la possibilité d'aller soit dans les écoles d'agro, à Montpellier ou à Toulouse, soit d'aller faire l'école nationale de chimie de Paris. Et puis là, c'était vraiment... J'étais en voyage à l'autre bout du monde, il fallait que je fasse mon choix et ça m'a pété. J'ai dit, bon, allez, je me barre de Paris et
T'es où quand tu prends la décision ?
À Sydney.
Ah oui, d'accord.
J'avais fini mes concours, j'étais partie 3 mois en vacances avec des copains faire un peu le tour de l'Australie, d'un bout de l'Australie. Et puis là, il fallait que je fasse mes choix et j'étais devant mon ordinateur et puis j'ai dit bon, Paris ou ailleurs et j'ai dit merde, je me casse. Du coup, j'ai cliqué sur Montpellier. Voilà, et j'ai débarqué comme ça à Montpellier.
Au moment où tu prends cette décision, est-ce que tout de suite tu te dis il faut que je commence à regarder un peu ce que c'est l'agriculture. Enfin là, t'es à Sydney, pour le coup, t'as une agriculture qui est très différente de la nôtre.
Oui.
Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis mais il y a un lien qui va se faire ou... Bah, tu t'es dit non, je vais tout apprendre à l'école.
Même pas, parce que je me suis dit je vais découvrir à l'école. Vraiment, j'étais pas du tout partie dans cette optique-là. En fait, c'est en voyant un peu les programmes de l'école d'agro qui est assez tournée sur aussi développement agricole international, parce qu'ils ont, ils ont des partenariats avec le CIRAD. J'avais un peu cette fibre du voyage, pas de l'humanitaire, mais d'essayer d'un peu d'aller travailler dans d'autres pays pour aider des gens. Et il y avait ce truc aussi à Montpellier qui me parlait, qui me donnait un peu envie, mais sans franchement trop savoir à quoi ça correspondait. Et non, j'ai vraiment tout découvert à Montpellier. Et après, le déclic vraiment sur l'agriculture et l'élevage, je l'ai eu quand j'ai fait mon stage de première année, que je suis allée faire sur un élevage du Tarn. Voilà. En ovin et en bovin viande, pas sur un système qui est totalement... comme ici, mais bon, avec des similitudes un peu. Et en fait, là, je suis tombée sur un maître de stage passionné, passionnant, qui m'a appris plein de trucs. Et en fait, c'est en sortant de mon stage, je me suis dit, bon, déjà, en fait, je vais peut-être pas forcément aller bosser à l'international. Je vais aussi rester en France. Il y a du travail à faire sur l'agriculture française. Ouais. Et je savais qu'en sortant de ce stage-là, je m'installerais. Ouais. Pas forcément dans l'immédiat, mais j'avais l'idée qui a commencé à germer là, quoi.
Mais justement, alors juste pour revenir un peu en arrière, quand tu arrives dans cette école-là, donc tu connais pas le secteur, c'est quoi en fait, est-ce que tu as des souvenirs des premières choses que tu captes sur l'agriculture et des premières choses qui finalement, au-delà du stage, t'intéressent sur la théorie déjà avant d'avoir
ce que j'aimais bien, c'est que c'était hyper, hyper diversifié en fait, ce qu'on vous apprenait en termes d'enseignement. C'est vrai que dans les écoles d'agro, on survole beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets sans forcément rentrer dans le détail. Alors, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, c'est peut-être un peu l'avantage de ces formations-là, c'est que la première année, on touche à tout. On parle agriculture internationale, on parle pastoralisme, on parle viti, on parle agroalimentaire. Alors là-dedans, j'ai un peu assez vite fait le tri dans les sujets qui m'intéressaient ou pas. L'agroalim, ça m'a assez vite gonflé. Il y avait des sujets qui me plaisaient pas trop... tout ce qui était un peu mécanique et tout ça. Enfin, il y avait des. Pourtant, maintenant, j'aime bien ça, mais il y avait des choses qui me plaisaient pas trop. Mais par contre, tout ce qui était qui rebouclait un peu avec ce que j'avais appris en prépa sur de la biologie, sur la gestion des sols, un peu de chimie, un peu de science, ça me plaisait bien. Et puis après, tout ce qui était aussi approche globale des systèmes. Réfléchir une exploitation dans son entité vraiment générale, ça fait partie des choses que j'aimais bien. Donc c'est vraiment au fur et à mesure à force d'aborder des sujets en fait qui sont vraiment très variés, en 6 semaines on passe vraiment du coq à l'âne. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à me familiariser sur certains sujets, mais j'avoue que il n'y a pas eu vraiment un moment déclic pendant les cours.
Accumulation de choses intéressantes.
Plein de trucs, des petites piqûres qui arrivent un peu à droite à gauche, et puis c'est vrai que quand on sort 2 ans de prépa. Où on a passé 20 heures par jour dans des bouquins, on arrive à l'agro, c'est un peu touriste, Club Med, on se détend un peu. C'est vrai que je n'ai pas trop forcé sur le boulot quand je suis arrivée à la première année.
Et justement, tes parents, ton entourage, comment tu leur annonces que tu as décidé de partir de région parisienne, de partir dans un domaine que tu connais finalement très peu, même si ça a un lien avec la biologie, mais comment ils le perçoivent?
Partir en région parisienne, ça les a pas gênés parce que bah je suis la dernière de quatre, donc voilà, mes frères et sœurs, ils ont tous pas mal bougé. J'ai un frère qui est parti en Russie, une sœur qui est partie en Russie aussi, mon frère il est parti en Allemagne, en Autriche, donc moi que je parte de Paris pour aller dans le sud de la France.
Finalement, c'était presque ridicule. Voilà,
c'était assez ridicule. Et puis j'avais mon copain à Paris qui était à l'époque qui était à Paris, donc je revenais quand même assez régulièrement. Je sais pas, j'ai des parents qui ont toujours été assez compréhensifs, ils nous ont laissé quand même assez libres de nos choix en termes d'études. Ils sont juste arrêtés sur le fait que l'école d'agro de Montpellier, c'est une bonne école, ça t'ouvrira des portes quoi qu'il arrive. Donc vas-y, j'ai pas eu de jugement à proprement parler sur le fait que je changeais de milieu.
Non, l'idée c'était pas d'avoir le chemin, c'est d'avoir juste.
Non, mais voilà, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Je suis pas sûre qu'ils avaient envisagé que je finisse là où je suis aujourd'hui. Je sais toujours pas s'ils comprennent ou pas pourquoi je fais ce choix-là, ni s'ils en sont fiers ou pas. J'en sais rien, je l'espère. Mais c'est vrai que je suis rentrée dans un secteur qui a rien à voir avec le milieu dans lequel j'ai évolué d'une façon générale. Voilà, qui est à des années-lumière de ce que je fais aujourd'hui. Mais bon, ça les dérange pas, a priori.
Ok, en tout cas, ils le disent pas.
Ou du moins, ils le disent pas, voilà.
Donc, après ce stage, t'as le déclic, c'est évident que tu deviendras agricultrice. Il se passe quoi après? Tu finis tes études?
Bah, je continue mes études. On a des choix de spécialisation après en deuxième et en troisième année. Donc, je continue mes modules optionnels dans l'élevage. Je fais un stage de deuxième année à l'INRA sur tout ce qui est repro en ovin. Ouvrir l'ail, ouvrir l'étang. Donc là, c'était pas mal. J'ai pas mal voyagé en PACA et en Aveyron pour aller voir tout un tas de systèmes d'exploitation à la Roquefort. Donc c'était assez chouette. Ouais. Pareil, troisième année spécialisation élevage. J'ai fait mon stage et mon mémoire de fin d'études à l'Institut de l'élevage. Là, je suis sortie du milieu des brebis et des vaches pour aller étudier le pastoralisme des chevaux.
Ah, intéressant.
En Camargue. C'était assez marrant. Ça m'a pas dégoûté de la recherche, mais ça m'a fait comprendre que je n'irais pas faire de la recherche dans ce domaine-là.
Ouais. Désolée, tu m'ouvres une porte.
Parce que j'ai adoré la partie terrain, mais après la partie analyse statistique où il faut essayer de mathématiser des choix de gestion de pâturage qui sont des choix un peu qui se font à l'œil, quoi. Et qui sont un peu sur le ressenti de l'éleveur, c'est une partie, ça m'a gonflé, quoi. Essayer de rendre mathématiques des choix, voilà,
choses qui sont plutôt de la sociologie, quoi.
Pas forcément mais c'est de l'a priori, quoi. Enfin, notre question, la question qu'il fallait aller poser, c'était à partir de quelle hauteur d'herbe vous enlevez vos chevaux de pâturage? Il y en a un, il m'a dit, moi, mes chevaux, la moitié du temps, ils broutent sous l'eau. Donc, c'est un peu pour des cons, quoi.
Ouais.
Donc c'était hyper intéressant, mais bon, c'était la conclusion de mon mémoire, c'est des choses qui sont empiriques et moi ça me plaît pas d'essayer de mettre des statistiques et de ranger ça. Après c'était très intéressant, mais voilà, donc ça m'a un peu détourné du milieu de la recherche. Donc je me suis dit je voulais faire un peu du conseil en élevage, c'était quelque chose qui me plaisait bien pour garder un peu cette partie terrain. Donc j'ai, pour des raisons personnelles, je voulais rester dans l'Hérault à côté de Montpellier, donc je cherchais des boulots dans ce coin-là. Bon, tous les postes de conseiller élevage à la chambre dans l'Hérault, il n'y en a pas 50 000, ils étaient tous pourvus. Et puis je suis arrivée tout à fait par hasard au JIA, où ils recrutaient un chargé de mission pour info installation. Et c'était pas forcément directement ce que je voulais faire, mais je me suis dit, un jour, je vais m'installer. Donc, à défaut de me plaire vraiment beaucoup, au moins, j'apprendrai des trucs qui me serviront pour la suite et ça m'ouvrira des portes. Et en fait, je me suis régalée au JIA. J'ai fait de l'animation du PAI pendant 5 ans. Et puis après, j'en avais un peu marre aussi. Donc, je suis restée au JIA. J'ai fait de l'animation syndicale. J'ai fait de la promotion métier. Et puis, j'ai commencé à m'installer, entre guillemets... en parallèle, puisque j'ai rencontré du coup mon copain via les JIA, ça faisait partie des dossiers des JIA que j'avais accompagnés. Donc je connaissais l'exploitation, voilà. Donc j'ai commencé à venir donner un peu des coups de main de temps en temps, un peu l'agnelage, un peu aux vaches, un peu à droite à gauche. Et puis après, j'ai commencé à travailler ici à temps très partiel, puis à mi-temps, puis à temps complet, et puis après j'ai démissionné pendant Covid, et le temps de faire les papiers, je me suis installé il y a un peu plus d'un an, officiellement.
D'accord. Ok. Voilà. Du coup, aujourd'hui, tu es installée sur une structure qui a quoi comme production?
Alors, on a 600 brebis, de race Cosnard des Garrigues. C'est une race vraiment d'ici, qui fait partie des races menacées en France. On n'est pas forcément beaucoup d'éleveurs à l'utiliser. C'est ni bon pour faire du lait, ni bon pour faire de la viande. C'est juste bon pour mener des agneaux correctement dans un endroit qui est pas très productif en termes d'herbe. Dans des, voilà, un milieu assez difficile. On a 50 vaches de race Aubrac et on a 10 hectares de vignes en cave coopérative. Ouais.
D'accord, ok. Donc vous avez 3 productions.
On a 3 productions.
T'es associé avec ton conjoint du coup ?
Et mon beau-père.
Et ton beau-père, ok, ouais. D'accord. Donc vous êtes 3 et vous n'avez pas de salariés
Si, on a une bergère qui garde les brebis pendant les 7 mois où on est ici. Mm-hmm. Parce qu'après on part en estive. Et on a aussi une autre salariée qui nous aide pas mal à la vigne, mais qui nous aide après tout le temps en fait quand on a besoin de, ouais. Quand on a des chantiers où on a besoin d'être un peu plus que 2 ou 3, voilà, quand il faut déménager les vaches, quand on tond les brebis, quand on fait tout un tas, quand on fait de l'écobuage, voilà, beaucoup à la vigne, mais petite main de fer qui va bien et qui est là aussi pas toute l'année, elle est là 7 mois par an.
Ok, donc bon, on en a parlé avant de commencer le podcast. Moi, je vois là, le milieu dans lequel tu vis. Est-ce que tu peux décrire pour les gens qui écoutent à quoi ressemble ton exploitation et quel est son environnement
L'environnement, c'est des cailloux. Voilà, c'est des garrigues du sud de la France. Donc, c'est des milieux qui sont pauvres, en fait. On est un système hyper, hyper, hyper extensif. Nous, on dit qu'en gros, pour une vache, il nous faut 50 hectares. Ça en choque beaucoup, mais c'est juste que nous, on repose vraiment essentiellement sur le pastoralisme. Ce serait une aberration, en fait, de fonctionner différemment ici, de garder des animaux en bâtiment sans valoriser la maigre ressource qu'il y a à l'extérieur, ce serait dommage.
Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est le pastoralisme vraiment?
C'est le fait d'utiliser la ressource extérieure, pâturable, en fait, c'est pas pour donner à manger aux animaux. C'est pas des terrains qu'on va faucher, c'est pas des terrains qui sont mécanisables, en fait, on peut même pas y aller en tracteur à part pour passer un coup de broyeur. Donc c'est vraiment utiliser la pousse de l'herbe pour faire pâturer les animaux, et nous notre système d'exploitation il repose exclusivement sur ça. Les vaches elles sont dehors 365 jours par an. Les bâtiments elles connaissent pas, elles vont même pas dans une stabilisation.
Ça veut dire qu'elles veillent dehors aussi.
Elles veillent dehors aussi. Alors pendant les vélages on les ramène dans le champ qui est devant la maison juste pour pouvoir surveiller en fait. Donc on les ramène par paquet de 10 ou 15, celles qui sont les plus prêtes. Là, pendant 10 jours, elles mangent du foin, mais au bout de 10 jours, ça dégage, entre guillemets, et ça retourne dans les clôtures, dans la garrigue, quoi. Et les brebis, c'est à peu près le même principe, elles sont dehors toute la journée, elles pâturent dehors toute la journée, on les rentre juste en bergerie le soir pour les mettre un peu à l'abri, et puis parce qu'on fait une petite production annexe qui n'existe plus trop, qui s'appelle le migou. Je pourrais expliquer ce que c'est tout à l'heure, mais parce qu'on fait ça, et après il y a juste pendant l'annulage où elle passe 3 semaines en bergerie, et après c'est pareil, ça retourne dehors, quoi. Donc okay. Notre système il repose vraiment sur le pastoralisme, sur le pâturage à l'extérieur. Et
oui, donc par exemple, si je te demandais ce que je vais pas faire, si je te demandais ton nombre d'hectares que tu exploites, ce serait déconnecté de la valeur agronomique du sol, et donc du coup ça voudrait pas dire que tu fauches, que tu labours.
Nous on pâture 2000, on a au total on a 2000 hectares qu'on pâture avec les animaux, donc ça c'est physiquement ce que ça représente. Si on peut même pas mettre de valeur agronomique, mais bon, il y a des systèmes de pondération dans la PAC, mais bon, en gros on en enlève 70%, quoi. Parce qu'il y a des endroits où voilà, c'est beaucoup des chênes kermesses qui ont pas de valeur, c'est beaucoup de cailloux, il y a des endroits où c'est hyper fourré, donc nous ça fait partie de notre travail aussi, de faire un peu de la, j'aime bien ce mot, de la reconquête pastorale. C'est un truc dont on a besoin, en fait, il faut réouvrir les milieux. Et c'est pour ça que je suis assez convaincue que fonctionner ici en mettant des animaux dans une bergerie et dans une vache, en ayant 300 hectares de foin et de leur donner du foin toute la journée, c'est juste, ça n'a aucun sens, quoi.
Ouais.
L'élevage c'est endémique et il y en a besoin pour entretenir les espaces, parce que de toute façon en fait on peut faire que ça sur ces territoires-là. C'est pas travaillable, c'est pas mécanisable, s'il n'y a pas d'élevage il n'y a rien, quoi.
Et du coup, tu as quand même des hectares que tu arrives à cultiver par rapport à ta production de foin. Enfin, il y a quand même une partie des hectares.
Le foncier, c'est un peu compliqué ici, mais en gros, on a entre 70 et 80 hectares de terres labourables qui nous permettent de faire du foin et de faire un peu de céréales pour engraisser les agneaux et les veaux, parce qu'on engraisse tout sur la ferme pour faire de la vente directe derrière. Donc, on a ça, et en fait, avec 70 hectares, on arrive à une autonomie fourragère une autonomie alimentaire complète sur l'exploitation pour tout le cheptel que j'ai décrit, quoi.
Ouais, ok, d'accord.
On n'a pas d'achat extérieur à faire, quoi.
Ta race de brebis, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble? Parce que moi, je suis à Vernet, je vois bien les lacones, mais après, je t'avoue que les petites races, je les connais pas.
Eh ben, alors, c'est des races, c'est tout blanc. Ça a pas du tout de laine. C'est une laine toute pourrie. Donc, c'est pas très agréable à tondre. C'est pas des grosses brebis. Ça a des oreilles un peu plus courtes que les lacones. On n'aime pas les grandes oreilles, comme les lacones. On dirait des avions, on n'aime pas ça.
On dirait des fennecs.
Mais voilà, la tête bien blanche, assez courte. C'est une jolie brebis. Ouais. Après, voilà, c'est pas des gros. Ça a pas des gros gigots, quoi.
Ouais.
C'est un truc qui est vraiment adapté pour marcher. Mmh. Elle marche entre 18 et 20 km tous les jours, les brebis, quoi.
Elles marchent parce que, en fait, vous les amenez loin ou parce que.
Non, parce qu'elles.
Elles vont elles-mêmes naturellement.
Elles vont elles-mêmes, moyennant quand même le cadre qui est imposé par la bergère qui leur dit là où on ira plus tard. Mais parce que voilà, elles ont des trajets un peu quotidiens. Moi, c'est sûr que les 2-3 premiers kilomètres en sortant de la bergerie qui sont pâturés tous les jours, matin et soir, elles y passent vite, mais voilà, on les emmène quand même assez loin et après, voilà, on leur fait faire des tours et on a des zones de pâturage qu'on dédie à différentes périodes de l'année en fonction de s'il y a les chasseurs ou pas, parce qu'on doit, faire aussi avec les autres utilisateurs du territoire. Voilà, selon si elles sont en gestation ou pas.
D'accord.
On jongle un peu comme ça.
Ok. Tu as dit que vous aviez une période d'agnelage, ça veut dire que vous groupez les agnelages.
On agnèle au mois de février-mars.
D'accord. Okay.
Ouais. Et les vélages, c'est à peu près pareil aussi, janvier, février-mars.
Ouais, donc c'est votre gros pic de travail ou
Non, le gros pic de travail, c'est plus maintenant. Parce qu'on a en même temps, la vente directe, parce qu'on finit de vendre une partie des veaux maintenant. Donc ça prend quand même un peu de temps en termes de logistique, gestion administrative et tout ça. La clôture de la compta qui personnellement prend pas mal de temps. Et puis on a en même temps tous les foins. On a la vigne aussi où il y a tous les travaux en verre qui commencent. Et on a encore les animaux en bas, donc on a encore la gestion quand même des animaux, des vaches qu'il faut déplacer d'un champ à l'autre, des citernes de flotte à amener assez régulièrement.
Parce que du coup, t'as un système d'estive, hein. C'est-à-dire qu'à partir...
On est assez nomades, nous, quand même, hein, sur l'exploitation,
ouais.
Parce que les vaches, grosso modo, elles sont ici du mois de décembre au mois de juin. Début juin, on monte en estive dans le Gard, à côté du Mont-Aigoual. Elles vont rester là-bas jusqu'à fin novembre, à peu près. Au mois de novembre, après, on part dans l'Aveyron. Là, on y va à pied, parce qu'on a une petite journée de marche, donc on aime bien faire les choses à pied, nous. Et une fois que... Et après, grosso modo, début décembre, elles vont rester un mois dans l'Aveyron. Et début décembre, on va aller à Aumelas, dans le centre de l'Hérault, où elles vont rester un mois et demi, et on va ramener tout le monde à pied encore, ici, début janvier, pour pouvoir surveiller les vélages.
Ouais.
Et après, quand on est ici, bon, c'est réparti sur des clôtures qui sont un peu, surtout le plateau ici, voilà, c'est des déplacements qui, au plus loin, il y a 10 km.
Ouais, d'accord.
Donc les vaches, c'est ça. Et les brebis, c'est pareil. Elles sont ici de la fin novembre au début du mois de juin. On part en transhumance première semaine de juin, à pied aussi. On monte vraiment sur le sud du Larzac, à Saint-Maurice-de-Navacelle. Mmh. Elles vont rester là jusqu'à mi-juillet. Mi-juillet, après, on va côté nord du Larzac, dans l'Aveyron.
Ouais.
Et puis, elles resteront là-bas jusqu'à fin novembre et on descend fin novembre ici.
D'accord. Quand tu dis vous faites une journée de transhumance, ça fait à peu près combien de kilomètres pour les brebis? Enfin, pour vous et les brebis, parce que...
Les brebis, on fait une vingtaine de kilomètres.
D'accord.
Quand on est en transhumance. Bon,
du coup, vous passez par plein de petits chemins.
Ouais. Ouais, on évite beaucoup les routes.
Ouais. Bah oui, si ça sert à les placer, ça fait quand même un petit peu.
Parce que ça fait du monde à déplacer, parce que avec les voitures, c'est un peu galère parfois, même si on essaie de s'adapter et pas forcément, enfin, souvent quand il y a des routes, on passe à des horaires où on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde. Et puis il y a quelques années, on a eu un bon accident avec une voiture qui est arrivée un peu trop fort dans le troupeau et un mec qui était pas trop en état de conduire, ça s'est pas bien passé. Et du coup, on a proscrit définitivement les routes il y a quelques années, quoi. Donc on fait ce qu'on appelle ici les drails, les vieux chemins de bergers en fait, hein, qui existent depuis des centaines d'années, qu'on continue d'utiliser, quoi.
D'accord, ok. Du coup, le fait qu'elles marchent beaucoup comme ça, les brebis, est-ce que ça fait qu'elles sont plus musclées que des brebis qui vont, bah, je sais pas, sur la viande et tout ça, ça, est-ce que ça change quelque chose?
J'avoue que j'ai jamais mangé une brebis en bergerie en même temps qu'une brebis de chez nous pour comparer exactement la viande. Après, je sais pas, je pense que ça, tout le monde nous dit qu'au moins la viande est pas forte, ouais, comme ça peut l'être sur des animaux qui sont ouais, assez complètement en bergerie. Que la viande est tendre, ça on oublie très souvent sur les veaux, c'est tendre, ah c'est tendre, nous on est content, mais tant oui, mieux. Est-ce que c'est plus musclé, j'en sais rien, je suis pas spécialiste de développement musculaire des animaux, mais okay, on arrive à sortir des carcasses qui sont pas trop mal, ouais, au regard de ce qu'on peut leur donner à manger. Quoi.
D'accord. Le circuit court, vous le, la vente directe, vous la faites comment, avec quel, sous quel modèle on va dire?
Alors on fait des colis,
ouais,
agneaux et des colis de veau. Après c'est beaucoup de bouche à oreille, ouais, donc moi je fais des livraisons en fait. On a plusieurs vagues d'abattage dans l'année, grosso modo printemps, été, automne. Ouais. Le but c'est pas de faire des abattages toute l'année parce qu'on n'a pas le temps et que moi j'aime bien faire de la vente directe, mais c'est comme beaucoup de choses sur la ferme. Je suis contente quand je commence un truc, mais au bout d'un mois je commence à en avoir un peu, ouais, marre aussi. Donc après c'est des livraisons hebdomadaires, je tue 3 veaux ou 50 agneaux semaine et je prends mes petites
remarques. D'accord, donc là, et un mois tu vas faire 3 ouais, semaines par exemple.
Là je suis en train de finir les veaux là, j'ai fini ce week-end les veaux, on en a tué un peu moins que d'habitude, mais là j'ai tué 12 veaux, donc pendant un mois j'ai tué toutes les semaines et j'ai livré ma viande toutes les semaines et voilà. Moi j'aime bien, ça me fait... Je prends ma voiture, je vais livrer un peu partout. Donc c'est beaucoup beaucoup de la vente en particulier, même très exclusivement. On travaille pas forcément avec les boutiques de producteurs parce que eux ils cherchent plutôt du détail et moi le détail c'est pas un truc dans lequel j'ai envie de me lancer pour l'instant. Les colis ça me va très bien. Voilà, et puis sur les agneaux après on bosse aussi sur les particuliers et aussi avec un restaurateur qui nous prend pas mal d'agneaux parce qu'il fait des méchouis.
D'accord. En
fait, voilà. On prend un tout petit peu les bouchers.
Voilà. Ouais. Ok. Quand toi tu es arrivé sur l'exploitation, est-ce que le système il était tel qu'il est aujourd'hui ou est-ce que t'as amené des...
Il était tel qu'il est. J'ai pas forcément amené grand chose. C'est peut-être un peu c'est pas une frustration sur mon installation, mais c'est peut-être un truc qui me manquerait, c'est que moi je suis venu un peu mon conjoint il me dit souvent soulagé en termes de main d'œuvre parce que la situation de l'exploitation fait que peut-être que à eux deux tout seuls ça sur le long terme ça aurait pas été durable ou tout du moins ils auraient dû sacrifier tout un tas d'autres activités qu'ils ont à côté parce qu'ils sont assez engagés sur différentes choses. Donc voilà, je suis plus arrivé en soutien, c'est un moyen aussi d'anticiper la retraite de mon beau-père, donc qui arrivera vraiment dans plusieurs années, mais bon, il faut quand même le temps aussi quand on n'est pas issu du milieu agricole de s'engager un peu dans ce métier-là. Donc non, moi j'ai continué de développer la vente directe parce que j'aimais bien ça. Voilà, et puis j'ai repris au fur et à mesure un certain nombre de tâches. Donc le fond de l'exploitation, les 3 ateliers et tout ça, ça n'a pas forcément changé, non.
Et la façon de mener l'exploitation, toi tu t'y retrouvais complètement quand t'es arrivé. Ça a été une évidence,
Ça m'a beaucoup plu ici. Voilà, le système transhumant, le système pastoral, les différents ateliers... c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très, très intéressant. Quoi.
Alors du coup, je vais refaire la question, mais sur le métier d'agriculteur, ton entourage, alors sans parler forcément que de tes parents, tes amis, tout ça, parisiens aussi, comment est-ce qu'ils ont, quand tu leur as dit, bon ben ça y est, je deviens agricultrice, ça. Alors vu que tu as été un peu salarié, ça a été un cheminement un peu plus lent, mais comment ils ont réagi?
Ça les fait marrer, hein. Ils comprennent pas trop, ils sont là, bon bah ouais, ok, ça fait plaisir, c'est cool, mais c'est juste qu'ils ont tellement pas forcément conscience de ce que ça peut représenter... Ils le voient ni d'un bon œil ni d'un mauvais œil, c'est ok, bon, ouais, c'est Aude, elle est bizarre.
C'est resté okay, comme c'est ça.
ouais, non. Après, je pense ça fait toujours un sujet de discussion un peu original, voilà, c'est clair, mais comme mes parents quand ils discutent avec leurs potes, ils font quoi vos enfants? Chercheurs, financiers, architectes, agricultrices. Ah ouais? Voilà, okay. Ça fait un sujet de débat, c'est marrant.
D'accord. Justement, toi, alors souvent dans les podcasts, on sent que les agriculteurs, surtout ceux qui sont issus du milieu agricole ou qui sont issus du département où ils sont installés, ils ont une espèce d'attachement au territoire, au terroir. au-delà du terroir viticole, mais comment toi, tu le sens, ce lien avec le support de ton activité professionnelle, mais aussi l'endroit où tu vis? Est-ce que il s'est créé? Est-ce que tu sens que tu as un rapport différent que ceux qui sont issus du milieu agricole? Comment tu l'analyses?
Le lien à ce territoire ici, il s'est créé avec le temps, parce que c'est un territoire qu'on apprend à découvrir, dont on apprend à connaître un peu les avantages et les inconvénients. Après, c'est sûr que bon, moi j'ai des racines à Paris, mais c'est pas forcément des racines à proprement parler. Je suis pas quelqu'un d'hyper matérialiste et d'attaché à proprement parler à un endroit géographique. J'aime beaucoup ici, mais en fait j'aime beaucoup plein d'endroits de France où je me sentirais hyper à l'aise aussi si j'avais les mêmes activités. Je suis très attaché à ici, mais je pense moins que mon conjoint ou mon père qui sont nés, qui ont grandi et qui ont fait toute leur vie ici. J'ai un lien, c'est sûr, un petit peu moins fort que à ce territoire d'ici, mais je reste attaché à notre territoire, à notre façon de fonctionner, surtout, qui est quelque chose qui me passionne et qui correspond à ce que j'aime faire aussi dans la vie, quoi.
Et justement, tu as peut-être un peu répondu déjà, mais est-ce qu'il y aurait eu des systèmes d'exploitation sur lesquels tu te serais jamais envisagé? Ou tu te serais dit, moi je peux pas m'installer, il y a des productions, peut-être des territoires aussi, sachant que tu voulais rester dans l'Hérault, du coup ça limite un peu, mais enfin.
Je voulais rester dans l'Hérault à l'époque pour des raisons personnelles, mais après, j'étais pas forcément fermée quand je suis rentrée au PAI avant de rencontrer mon conjoint, j'étais pas forcément fermée au fait, enfin au contraire, j'étais plus partie même pour aller sur des territoires un peu plus de montagne, parce que j'aime bien la montagne, je visais un peu l'Ariège ou des secteurs un peu comme ça. Des territoires où je serais pas allée, non. Parce que j'aime profondément toute la France dans son entièreté, et il n'y a pas d'endroit que j'aime pas en France. Mais après, ça aurait peut-être été plus des productions qui m'intéressaient pas, peut-être un peu moins, j'avoue que la volaille ou les cochons, c'est pas. Enfin voilà, mais après, c'est une question d'affinité, c'est pas des trucs qui me branchent. Un système mono-atelier m'aurait peut-être pas plu.
Moi, je suis quelqu'un. D'avoir qu'une production,
Okay. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien quand il y a beaucoup de choses à faire et de la diversité et du touche à tout. Donc, c'est pour ça qu'ici, vraiment, ça me plaît, parce que c'est, on fait 15 000 trucs différents et j'aime ça. Et après, je pense qu'un système tout bâtiment, sans dire que c'est mal ou que c'est
non,
pas.
Non, c'est pas une question, c'est vraiment ton goût.
C'est bien, c'est vraiment une question de goût. Moi, je suis quelqu'un de. Voilà, enfin, j'aime notre façon de faire avec des animaux qui sont dehors. C'est pas mieux ou moins bien, ça me correspond plus à moi.
C'est pas du tout un jugement.
Voilà, je me serais moins vue aller, je sais pas, faire de la vache laitière en Bretagne, ou je sais pas, ou ailleurs, enfin, c'est un truc qui me plaisait un peu, qui m'aurait peut-être un peu moins attiré. Sans jugement de valeur, et encore, parce que je connais pas bien.
Oui, mais c'est bien l'idée. T'as été conseillère au point, alors c'était accueil ou info-installation, ça a dû changer. Justement, quand tu t'es installée, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, parce que toi, tu maîtrisais quand même après le dossier.
Je crois qu'on m'a pas donné 50 conseils, en fait.
Ouais.
On m'a dit, oui, ça va, vous vous démerdez, vous savez comment il faut faire. On m'a peut-être dit de faire un peu attention à l'organisation du travail à trois, parce que ça peut être... surtout quand on arrive sur une structure père-fils qui tourne déjà... de faire un peu attention à la façon de s'organiser. Ça, je rejoins, c'est pas forcément hyper facile.
Ouais,
après, on n'a pas donné 50 000 autres conseils.
Et justement, t'as fait comment pour trouver ta place dans le binôme?
Faut avoir un peu de gueule, je pense.
Ouais.
Après, je vais pas dire que je l'ai toujours pas trouvé. En fait, c'est hyper compliqué, l'équilibre à trois.
Ouais.
Mais pas forcément parce que moi, j'arrive dans un environnement père-fils, ou parce que mon beau-père, il se trouve dans un environnement de couple. Ça peut être difficile aussi de son côté. Et puis il y a aussi le fait que comme on est nomade 6 mois par an, mon beau-père il est pas forcément beaucoup là. Donc c'est aussi ça qui fait que c'est compliqué. On est tous partout, en fait, à droite à gauche, on a beau travailler tous les trois ensemble, on n'arrive pas à se voir super souvent, parce que soit on est en réunion, soit on est parti l'un là, l'autre là dans les champs, et puis l'autre encore qui fait de la clôture. Donc c'est peut-être un peu ça le plus compliqué, mais c'est pas un problème de relations humaines, forcément, c'est juste de l'organisation qui
fait. Du coup, vous faites des réunions des fois?
On n'y arrive pas trop, en fait. Moi, j'ai essayé un peu d'instaurer ça, de dire, mais il y a plein de gens, en fait, ils sont gays, qui sont dans l'exploitation à plusieurs, ils font des réunions, mais en fait, même en se disant, on va faire une réunion tous les lundis matin pour tirer les plans sur la semaine,
on a essayé deux fois et en fait on n'y arrive pas du tout parce qu'il va y avoir un lundi matin où moi je pourrais pas parce que faut que j'aille je sais pas où, parce que mon beau-père il a une réunion à la mairie, parce que il y a un truc au GIA, parce qu'il y a les filles qui je sais pas quoi. Donc en fait, le téléphone marche beaucoup beaucoup beaucoup. Ouais. Après on perd un peu de temps à se répéter les choses parce que mon beau-père il va me dire un truc et puis il va le dire à mon conjoint et puis moi je vais dire un truc à mon conjoint et puis je vais le répéter à mon beau-père deux jours après. C'est un peu le petit point qu'il faudrait optimiser, c'est ça quoi, l'organisation.
Un groupe WhatsApp quoi.
Ouais, mais alors mon beau-père.
Ok, mais je me doute.
Et puis on a déjà tous 12 000 groupes WhatsApp. On n'a pas hyper envie d'en rajouter encore quoi.
Et toi, t'es habitué à travailler du coup dans des bureaux avec des collègues, avec des gens que tu voyais tous les jours. Justement, tu dis des fois on a du mal à se croiser. Est-ce que la solitude, elle est, c'est une dimension à laquelle tu t'étais préparé, que t'apprécies, que tu trouves parfois difficile? Comment tu l'appréhendes justement?
Moi, c'est un truc que j'apprécie. Je suis assez solitaire de nature et ça me va bien de bosser dans mon coin toute seule. Enfin, ça me va très bien quand on a des chantiers à plusieurs, mais moi, quand je suis toute seule dans mon tracteur pendant 12 heures, j'ai l'impression d'être en vacances presque. Ça me fait du bien. Comme je suis tout le temps très speed parce que les gamins, parce que l'exploitation, parce que les réunions, il faut tout le temps courir partout. Quand j'ai des moments où même quand je suis en train de travailler, mais que je suis toute seule et que je suis tranquille, quoi, ça me va bien, j'aime bien.
D'accord. Ok. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que tu étais pressée.
Ouais.
Est-ce que finalement c'est bien ou c'est pas bien d'être pressée? Parce que quand on t'entend, on a l'impression que c'est un peu les deux.
Bien ou pas bien, j'ai envie de dire, enfin, j'ai pas trop le choix. Si, je pourrais prendre le choix, mais moi j'ai un peu à cœur d'essayer de m'occuper, alors ça va faire un peu arriéré ce que je dis, mais de m'occuper de mes filles et de ma maison en bonne mère de famille. Enfin, j'ai baigné dans un milieu peut-être un peu traditionnel, mais avec maman qui était mère au foyer, qui a toujours tout géré à la maison. J'ai à cœur un peu de reproduire ce schéma-là, mais bon, je peux pas faire comme une mère au foyer, mais en ayant un boulot à plein temps qui est pas un petit boulot, et puis en faisant à côté un peu de syndicalisme. Ça me pousse à être un peu pressée. Donc, moi, ça me va parce que ça me permet de faire tout ce que j'aime et je pense que c'est, j'ai besoin des trois pour me sentir bien. Après, j'avoue qu'au quotidien, parfois, c'est un peu, je peux être un peu exécrable en fin de journée parce que j'ai passé ma journée à courir et que j'en ai marre, quoi. Mais moi, mes journées me plaisent parce que c'est des journées qui sont sous tension et que je suis un peu quelqu'un de speed, donc mes journées me vont bien quand elles sont comme ça, quoi.
Okay.
Sinon, je m'ennuie.
Quel est le dernier achat que tu as fait pour ton métier?
Des chaussures pareilles.
J'avais tout le monde répondu ça, vous avez vraiment une quantité de mesure de chaussures.
Ici, les cailloux, ils sont usants. Non, j'ai acheté des chaussures il y a quelques jours.
Le dernier film ou la dernière série que tu as aimé? Alors, je n'ai pas regardé parce qu'on ne va pas bâcher des films.
Le dernier film que j'ai regardé, j'avoue que je regarde tellement pas trop de séries que je ne sais pas. Le dernier truc que je suis allée voir au ciné, c'était... ça s'appelle Alibi.com 2, je crois.
Ouais.
Voilà, c'est le dernier truc que je fais voir au ciné, j'ai bien rigolé.
La dernière recherche Google que tu as faite?
Ça devait forcément avoir un lien avec la ferme. La dernière Google recherche.
La météo?
Ouais, la météo. Mais j'ai une appli dédiée, donc c'est même plus une recherche Google. Je sais pas, le dernier truc que j'ai regardé sur Google. Ah bah si, c'est une... Ouais, parce que j'aime bien la musique et c'était une partition de guitare pour faire une chanson pour mes filles.
Ok, et alors tiens, tu vois, tu fais la transition. Le dernier morceau de musique que tu as fredonné?
C'était La Reine des Neiges pour mes filles. Ah. Voilà, qui sont des filles et qui sont petites. Donc, dès qu'il y a le mot Reine des Neiges, ça devient la folie.
Ouais, les garçons, ça devient pour ça. De quoi t'es fière aujourd'hui?
De tout ça.
Ouais.
De réussir à goupiller bonhomme à l'an une exploitation agricole qui tient à peu près la route avec une vie de famille correcte parce que je pense que j'arrive pas trop mal à m'occuper de mes filles quand même et à leur accorder du temps et puis en rajoutant par-dessus un peu d'engagement syndical qui me tient quand même beaucoup à cœur. Voilà, je suis assez fière de réussir à additionner à peu près les trois.
Ok, dernière question, comment tu t'y sens dans tes bottes?
Super.
Bon, merci.
Merci à toi.
On peut avoir grandi en région parisienne et être éleveuse dans le nord de l'Hérault. On peut avoir des troupeaux qui voyagent à pied sur trois départements. On peut adorer être débordé de tâches toujours différentes et trouver du temps pour sa famille. Enfin, on peut avoir pris une décision d'orientation sur un coup de tête à Sydney en Australie et être aujourd'hui une agricultrice épanouie. C'est ça, être agricultrice aujourd'hui. À bientôt dans de nouvelles bottes. vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. À bientôt dans de nouvelles bottes.